On a dit que l'ambition perd les grands hommes et l'écrivain et moraliste Sébastien Chamfort écrit « Amour, folie aimable, ambition, sottise sérieuse ». Il semble donc que la sagesse populaire considère l'amoureux d'un bon œil, mais se méfie de l'ambitieux. Mais comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, la vie ne s'ordonne pas en jolis petits casiers noirs ou blancs. On baigne souvent dans le gris. L'ambition d'un vaniteux prétentieux n'est certainement pas une bonne chose, mais il y a des désirs qui sont tout à fait légitimes et honorables. Je commence à lire le troisième chapitre de la première épître de Paul à Timothée. On dit « Celui qui aspire à être un dirigeant dans l'Église désire une belle tâche. Cette parole est certaine. » Verset 1. Après avoir parlé de la conduite des hommes, puis de celle des femmes, Paul va aborder le devoir des responsables de l'Assemblée. L'efficacité du ministère d'une Église est une réflexion sur la qualité de ses dirigeants. Le prophète Osée écrit « Il en sera des prêtres comme des gens du peuple ». Il voulait dire par là que ces deux catégories de gens sont aussi spirituelles ou décadentes l'une que l'autre. Elles vont dans le même sens. Il est vrai qu'en général, le niveau moral du peuple ne s'élève pas au-dessus de celui de ses leaders. Dans le cadre de l'Église, il est primordial pour sa bonne marche que ceux qui la dirigent soient d'un haut calibre spirituel et moral, car ils sont appelés à donner l'exemple par leurs attitudes et comportements dans tous les aspects de leur vie. C'est tellement important pour l'apôtre qu'il donne à deux reprises, une fois à Timothée et une fois à Tite, la liste des qualifications exigées d'un ancien puis d'un diacre. Jésus a dit « Le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. » Et ailleurs, Paul ne craint pas d'écrire « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Ce que vous avez appris, reçu et entendu, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. » Ici, Paul dit « Celui qui aspire à être un dirigeant dans l'Église désire une belle tâche. » Et il ajoute « Cette parole est certaine », ce qui veut dire qu'elle est sûre, vraie et digne de confiance. L'expression « Cette parole est certaine » se trouve 5 fois dans les épîtres pastorales et nulle part ailleurs. On l'a déjà rencontrée au premier chapitre. Cette affirmation est absolument vrai, non pas parce qu'elle a résisté à l'épreuve du temps, mais parce qu'elle vient de Dieu. L'homme fidèle au Seigneur, qui a les qualifications requises pour devenir l'un des responsables de son assemblée, devrait aspirer à cette fonction. Il ne s'agit évidemment pas d'une recherche de prestige, mais de mettre au service des autres les dons que le Saint-Esprit lui a donnés. Paul confirme donc à ceux qui aspirent à la charge de dirigeant qu'il désire une œuvre excellente, une bonne activité. Le mot pour « aspire » n'apparaît que 3 fois dans le Nouveau Testament. Il décrit quelqu'un qui cherche à atteindre un but ou un objet. Le mot pour « désir » exprime un sentiment passionné. Paul dit donc que le désir brûlant d'un homme qui cherche à devenir responsable de son assemblée est une bonne chose. Alors que celui qui veut grimper les échelons de l'échelle sociale par intérêt personnel est un simple ambitieux, ce qui n'est pas forcément mal si on respecte les règles, celui qui désire un poste à responsabilité pour servir les autres dans le cadre de l'Église agit avec un mobile noble et pur. J'ai eu l'occasion de rendre visite à une assemblée où celui qui dirigeait le culte m'a épaté par la manière dont il se comportait. Ce n'est pas encore un ancien, mais il accepte certaines responsabilités dans l'Église. Je le connais depuis longtemps et j'ai trouvé que Dieu l'utilisait pour créer une atmosphère apaisante pendant le culte, ce qui favorise bien sûr l'adoration. C'eût été dommage s'il n'avait pas mis ce don au service de l'Église. Celui qui aspire à être un dirigeant, ce mot « dirigeant » est en réalité, dans le grec, « épiscope ». En Grèce, c'était le titre de l'administrateur d'une ville, le maire en somme, ou bien du trésorier public. Dans l'Église catholique, « épiscope » correspond à « évêque. Cependant, au premier siècle, l'évêque n'avait pas d'autorité sur d'autres églises que la sienne. Il dirigeait l'assemblée et avait un ministère de prédication et d'enseignement. Comme le mot « évêque » porte une lourde charge religieuse, la plupart des protestants ne l'utilisent pas. Dans le Nouveau Testament, « épiscope », évêque, est équivalent à « ancien ». C'est le mot « presbytre » en grec, ou encore « surveillant » ou « pasteur », qui est le titre le plus répandu pour le ministre du culte protestant. Je continue le texte. Il faut toutefois que le dirigeant soit un homme irréprochable, mari fidèle à sa femme, maître de lui-même, réfléchi et vivant de façon convenable, qu'il soit hospitalier et capable d'enseigner. Verset 2. Le dirigeant, l'évêque, l'ancien, le pasteur, quel que soit son nom, doit être irréprochable. C'est une nécessité, comme l'indique la particule grecque traduite par « il faut ». Irréprochable signifie qu'il ne peut pas être retenu, c'est-à-dire qu'on ne peut retenir aucune charge contre lui. On dira peut-être du mal de lui, mais ce seront des calomnies sans aucun fondement. Dans la liste à Tite, Paul utilise un autre mot que « irréprochable » et qui signifie littéralement qu'on ne peut pas réprouver, réprimander. Cet homme est un modèle de vertu digne d'être suivi et d'une réputation à toute épreuve, au point où même ses ennemis ne trouvent rien à lui reprocher. Le dirigeant irréprochable est premièrement un mari fidèle à sa femme. Il n'est pas ici question de son statut marital. En grec, Paul écrit « c'est un homme d'une femme ». Il veut dire par là que cet homme, s'il est marié, et ce n'est pas une obligation, doit avoir une seule femme, pas deux, ni trois, ni maîtresse. Au niveau moral, le dirigeant doit mener une vie droite. Si l'apôtre mentionne cette caractéristique en tête de liste, c'est parce qu'à cette époque, le divorce était très simple et les rencontres galantes monnaie courante. Dans notre société où tout est permis, le leader, qu'il soit directeur d'usine ou pasteur, est souvent en proie aux tentations d'ordre sexuel. Pour l'homme d'affaires qui se trouve à 10 000 km de chez lui, passer une nuit avec une créature de rêve est facile et pas vu, pas pris, ni vu, ni connu. Le croyant qui se rend coupable d'immoralité sexuelle ne peut devenir ancien d'une assemblée. L'adultère est une faute que Dieu pardonne, bien sûr, mais la tâche ne s'enlève pas. En second lieu, le dirigeant est maître de lui-même. Littéralement, le mot signifie « qui n'est pas adonné au vin ». Mais il était utilisé comme métaphore pour dire « il est vigilant et il a l'esprit clair ». Un ancien doit se tenir en éveil. Il doit pouvoir penser vite et prendre la bonne décision rapidement si besoin. Troisièmement, le dirigeant irréprochable est réfléchi, sérieux. Il nourrit ses pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. Quatrièmement, il vit de façon convenable. C'est un homme respectable. Il est discipliné dans son esprit et dans sa vie. Celui qui est désorganisé dans une perpétuelle confusion, dont les projets n'aboutissent jamais, chez qui c'est toujours le foutoir, n'est certainement pas qualifié pour participer à la direction d'une église. Cinquièmement, le dirigeant est hospitalier. En grec, le mot veut dire « aimer les étrangers ». C'est une vertu qui est recommandée, voire ordonnée, à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. Il ne s'agit pas ici d'inviter ses amis, mais de gens qu'on ne connaît pas, qui sont de passage ou qui sont dans la détresse et qui ont besoin d'un repas ou d'un toit pour une nuit ou davantage. Dans le monde antique, il n'y avait pas d'hôtel, seulement des auberges aux conditions déplorables, qui généralement faisaient aussi office de bordel et où les voyageurs étaient régulièrement détroussés, sinon assassinés. Platon appelle les aubergistes des pirates qui rançonnent leurs hôtes. Les grandes familles, dont les membres étaient dispersés dans l'Empire, au bout de deux générations ne se connaissaient plus de visage. Alors ils avaient un système qui s'appelait « hôte ami ». Ils possédaient tous deux moitiés d'un objet ayant la même forme. Quand l'un des membres était en voyage, il se rendait dans sa famille éloignée, frappait à la porte et montrait patte blanche au moyen de l'un des deux demi-objets. La famille s'assurait alors qu'il s'emboîtait bien avec l'une des deux moitiés qu'elle possédait, du même type d'objet, avant de le prendre sous son toit. À cause des persécutions, de la pauvreté, du grand nombre de veuves et d'orphelins, il était impératif pour les croyants d'ouvrir leurs portes aux autres croyants, même si c'était des étrangers qu'ils ne connaissaient pas. À plus forte raison, l'ancien doit être disponible pour accueillir ceux qui ont besoin d'un lit et d'un couvert. Personnellement, alors que j'étais en voyage, seul ou avec ma femme et mes enfants, j'ai souvent eu l'occasion d'aller chez des croyants et d'expérimenter l'hospitalité désintéressée de mes hôtes. Sixièmement, le dirigeant doit être capable d'enseigner. Le mot ainsi traduit a donné « didactique » en français et il n'est utilisé que deux fois dans le Nouveau Testament. Cette capacité de prêcher et de développer la parole de Dieu distingue l'ancien, le pasteur, le dirigeant du diacre. Un prédicateur doit pouvoir exposer des vérités qui ne sont pas simples et les appliquer à la vie de tous les jours. Pour cela, il doit lui-même avoir une solide connaissance des Écritures, mais sans la grosse tête qui caractérise les « monsieur le professeur ». Enseigner n'est pas en soi une vertu morale. Pourtant, le pasteur qui prend les Écritures sérieusement les appliquera dans sa vie et sera ainsi un exemple pour les autres afin qu'eux aussi mettent la parole de vie en pratique. En fait, tous ceux qui dirigent ont un objectif principal en vue, influencer. Et dans ce but, ils doivent à la fois enseigner et être un exemple. Mais plus que ce qu'il dira, c'est la personnalité d'un homme, ce qu'il est, qui motivera ses ouailles à le suivre et à s'engager dans la voie qu'il trace. Enseigner est comme fixer des clous dans l'esprit, mais donner l'exemple est le marteau qui les enfonce en profondeur. Je continue le texte. Il ne doit pas être buveur ni querelleur, mais au contraire aimable et pacifique. Que l'amour de l'argent n'ait sur lui aucune prise. Verset 3. Nous arrivons maintenant à quelques qualifications qui sont marquées négativement, ce qui est interdit à un bon pasteur de faire. Il ne doit pas boire à l'excès, car nul ne peut diriger effectivement s'il a l'esprit embrumé par l'alcool, et puis c'est un exemple déplorable. En second lieu, il ne doit pas régler les problèmes à coups de poing ou avec un flingue, mais il gardera son calme et son sang-froid en toute occasion et redressera ses adversaires en douceur. Troisièmement, conscient de ses propres faiblesses, il ne garde pas de rancune et pardonne facilement à ceux qui l'offensent ou le critiquent. Quatrièmement, c'est un faiseur de paix. Il n'essayera pas d'avoir absolument raison dans une discussion animée. Celui qui aime argumenter provoque des discordes et des tensions, ce qui freine considérablement tout travail d'équipe. Finalement, il ne doit pas se laisser séduire par le gain et les richesses. Il n'est pas à vendre. Ce n'est ni un homme d'affaires, ni un politicien. Au premier siècle, l'amour de l'argent était, semble-t-il, la principale motivation des faux prophètes. L'apôtre Paul était un homme totalement désintéressé. Il n'était absolument pas attiré par les biens de ce monde. Avant sa première arrestation, il a dit aux anciens de l'église d'Éphèse « Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Regardez mes mains. Ce sont elles, vous le savez bien, qui ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. Je vous ai montré partout et toujours qu'il faut travailler ainsi pour aider les pauvres. » Paul est un exemple pour ceux d'entre nous qui vivons dans un certain confort. Il nous faut prendre garde à ne pas tomber dans le piège vicieux des richesses, car elles vous enlacent, et comme le python, elles vous étoufferont. Je continue le texte. Qu'il dirige bien sa maisonnée et tienne en main ses enfants dans le respect, car comment un homme qui ne dirige pas bien sa maisonnée serait-il qualifié pour prendre soin de l'Église de Dieu? Versets 4 et 5. La vie familiale d'un pasteur doit être irréprochable comme sa vie personnelle. S'il est un saint dans l'église et un diable à la maison, c'est un hypocrite. Le mot pour dirige veut dire présider. Et le mot bien a aussi l'idée d'ordonner et de beau. Le mot pour maisonner inclut les finances. L'expression « tient en main » est un terme militaire qui signifie « mettre en rang sous un commandement ». Les enfants d'un ancien doivent être bien élevés et respectueux, avoir appris l'obéissance et honorer leurs parents par leur comportement. À Tite, Paul ajoute qu'il ne faut pas qu'on puisse accuser les enfants d'un ancien de mauvaise conduite ou de rébellion, mais qu'ils soient fidèles au Seigneur. Le pasteur prend son rôle de père au sérieux. Il aime ses enfants et veut les éduquer correctement. Pour cette raison, il exige l'obéissance de leur part. Mais son autorité n'est pas arbitraire et il est raisonnable dans ses expectations. Et sa priorité sera de leur enseigner la parole de Dieu, la parole de vie, afin qu'ils placent leur confiance en Jésus-Christ. Si quelqu'un a une famille truffée de problèmes, s'il n'a pas su promouvoir son unité, résoudre les conflits et préserver les liens d'affection, il n'a pas les qualifications requises pour s'occuper d'une église. Je continue. Que ce ne soit pas un converti de fraîche date, de peur qu'il ne se laisse aveugler par l'orgueil et ne tombe sous la même condamnation que le diable. Verset 6. Le mot pour « converti de fraîche date » n'apparaît qu'ici dans le Nouveau Testament. Il a donné « néophyte » en français. C'est avec ce mot que les Grecs désignaient les arbres nouvellement plantés, d'où son utilisation métaphorique par l'apôtre Paul. Un jeune croyant placé trop tôt en position d'autorité court le risque de se prendre pour quelqu'un d'important et ainsi tomber dans le péché d'orgueil. C'était un réel danger à Éphèse, qui était une église établie et respectée. Cette qualification est absente de la liste que l'apôtre écrit à Tite, parce que l'assemblée de Crète était récente et donc les dirigeants étaient eux aussi forcément des jeunes convertis. Les anciens doivent donc être matures par rapport aux autres membres de l'église. Le verbe traduit par « aveuglé par l'orgueil » veut dire gonflé comme un nuage de fumée, c'est tout dire. Il est aussi question du diable dans ce passage. Lucifer a été précipité de sa haute position hiérarchique à cause de son orgueil. Il a manifesté sa volonté sur celle de Dieu à 5 reprises. En conséquence, lui qui était un modèle de perfection, plein de sagesse, merveilleux de beauté, en Éden, au jardin de Dieu, sur la sainte montagne de Dieu, et qui avait été établi comme chérubin protecteur, il a été précipité parce que, dit Dieu, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, et tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jetterai par terre. Fin de citation. Cette chute serait aussi le genre de jugement du néophyte nommé ancien qui se rendrait coupable d'orgueil. Il se verrait disqualifié pour tout poste à responsabilité dans l'Église. Les Écritures ne disent pas quel est le pire des vices, mais il semble quand même que l'orgueil soit en tête de liste. Je continue le texte. Enfin, le dirigeant doit aussi jouir d'une bonne réputation parmi ceux qui ne font pas partie de la famille de Dieu, afin de ne pas s'exposer au mépris public et de ne pas tomber dans les pièges du diable. Verset 7. Le caractère vertueux de l'ancien ne doit pas seulement se manifester dans sa vie personnelle, dans l'église et dans son foyer, il faut aussi qu'il ait bonne réputation en dehors des cercles des croyants. L'ancien, le pasteur, doit être connu pour son intégrité, sa moralité, sa générosité et sa bonté. On ne sera certainement pas d'accord avec sa perspective du monde et ses convictions théologiques, et on lui fera même des misères quand il prendra position pour la vérité de la parole de Dieu. Cependant, même les incroyants et les moqueurs reconnaîtront que c'est un homme irréprochable sous toutes les coutures. Ceci est important car comment quelqu'un peut-il avoir un impact dans sa communauté si on ne le respecte pas? S'il n'est pas droit comme un i, s'il ment ou n'est pas digne de confiance, tôt ou tard ça se saura et Satan s'arrangera pour le faire tomber afin que tout le monde constate qu'il est faux. Alors le nom de Jésus-Christ sera déshonoré à cause de lui. C'est exactement le reproche que Paul adresse aux Juifs qui se croyaient supérieurs aux païens à cause de leurs ancêtres, Abraham en particulier, et parce que possédant la loi de Moïse, ils prétendaient la mettre en pratique, mais ce n'était qu'un discours creux tissé d'hypocrisie. L'apôtre écrit « Et ainsi, comme le dit l'Écriture, à cause de vous, Juifs, le nom de Dieu est outragé parmi les païens. Israël, qui aurait dû être une lumière pour les nations, les a au contraire conduites à blasphémer Dieu. » Ailleurs, Paul exhorte les croyants, disant « Faites tout sans vous plaindre et sans discuter pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans tache, au sein d'une humanité corrompue et perverse. Dans cette humanité, vous brillez comme des flambeaux dans le monde, en portant la parole de vie. » C'est un programme complet de toute une vie.